Qu'est-ce que le balado de M. Ménard? Le plan de ce projet est assez simple. Nous avons trois questions à répondre. Qu'est-ce que le balado de M. Ménard? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À y devenir quelque chose. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au balado de l'histoire avec M. Ménard, ce balado qui est vu comme un objet d'apprentissage. Donc on est déjà rendu au 5e épisode, ça va vite cette affaire-là. Aujourd'hui on va avoir un épisode un peu plus court quand même, qui est un épisode transitif entre les deux sujets, entre deux sujets de balado. Ça va faire la suite de l'épisode 1. Qui était l'histoire racontée. Donc, si vous n'avez pas écouté le balado sur l'histoire racontée, je vous encourage à le faire. Dans cette dernière balado-là, on avait parlé de la trame narrative historique, donc de raconter une histoire comme telle. D'ailleurs, j'espère dans les prochaines semaines publier sur le Instagram du balado, publier le schéma narratif pour la révolution industrielle, pour vous donner un exemple assez concret de ce que ça veut dire. Cet épisode-ci va parler du problème, donc l'histoire problème. C'est un épisode un peu plus réflexif qui va porter sur certaines questions qu'on a envers la discipline historique. Donc, si vous voulez vous donner plus d'outils ou réfléchir à cette discipline-là, cette balado pourra faire une partie du travail, je crois. Donc, on est quasiment rendu déjà à 500 téléchargements de la balado. On a plusieurs votes sur les différentes plateformes. Je vous en remercie. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez toujours le faire au histoireavecmenard@outlook.com ou commenter sur les publications Instagram. On part la machine dès maintenant. Donc, allons-y. Donc, on commence l'épisode aujourd'hui avec trois réflexions sur l'histoire. Donc, comme je vous avais dit, c'est un sujet peut-être un peu plus philosophique aujourd'hui. Donc, des réflexions que j'ai eues ou des commentaires que j'ai eus dans les dernières années quand j'enseignais l'histoire ou quand je réfléchissais à cette discipline-là. Puis, on va essayer de voir comment on peut y répondre partiellement, ces idées-là. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça parler de l'histoire-problème. Donc, l'histoire problème dans la perspective où on utilise une méthode qui est similaire à la méthode scientifique ou la méthode mathématique, par exemple. Donc, on va revoir ça sous ces différents angles-là. Donc, souvent, on entend que certaines personnes voient l'histoire, disent que l'histoire, c'est pas trop pour eux parce que ils ont un esprit peut-être plus logique, plus mathématique. Et l'histoire ne répond pas vraiment à ces exigences-là. Et c'est vrai, par exemple, que pour aimer l'histoire, il faut accepter un peu de chaos, hein, parce que si on essaie d'organiser tous les événements vraiment d'une façon très logique, très claire, très linéaire, c'est sûr que les événements historiques, là, le progrès, il est pas simplement linéaire, il va bouger, il va avoir des reculs, des avancées, des changements, des continuités. Donc oui, c'est vrai que pour aimer l'histoire, il faut accepter une certaine dose de hasard, de chaos, mais l'histoire peut être quand même un outil de résolution de problèmes. Et ça, pour moi, c'était super intéressant quand j'ai réalisé ça. Et ça vient un peu de mes années d'enseignement en informatique. Ce que je trouvais super chouette avec l'informatique, c'est qu'on pouvait partir d'un problème complexe ou un problème simple, peu importe. On pouvait venir le décortiquer en séquence pour essayer d'y résoudre, de le résoudre. Et ça, moi, je trouvais ça vraiment fascinant. Et à force d'enseigner l'histoire, j'essaie de trouver un moyen pour pouvoir reprendre cette méthode-là plus logique, plus logique informatique, sciences informatiques et de la mettre à l'histoire. Et c'est vraiment clair que la méthode historique a cette qualité-là de pouvoir résoudre des problèmes. Et donc, en voyant l'histoire comme une question de recherche, une hypothèse, en voyant l'histoire comme une recherche d'information, une enquête, si on veut, c'est quelque chose qui peut vraiment amener l'histoire à devenir intéressante pour certaines personnes aussi. Et l'histoire, dans cette perspective-là, peut être un outil supplémentaire pour comprendre l'actualité, comprendre des problématiques complexes. C'est sûr qu'en ce moment, on peut pas passer outre les événements qui vont toucher l'Ukraine et la Russie. Mais pour comprendre l'Ukraine et la Russie, il faut véritablement faire un saut en arrière pour aller voir un peu c'est quoi les causes, les racines de ces événements-là. Puis je pense que sans cette histoire problème-là, donc quelles sont les racines du conflit, les racines historiques, on a une vision très partielle de l'actualité, puis on peut être un peu en difficulté pour pouvoir comprendre ces événements-là. Et parfois, je trouve qu'on prend pour acquis nos droits politiques, le droit de voter, de s'exprimer, de manifester, alors que ce sont des droits qui semblent fondamentaux dans une démocratie. Donc, pour être un citoyen éclairé, la citoyenneté revient justement des idées des Lumières et tout ça, pour être un citoyen dans cette perspective-là, en tout cas du citoyen moderne, ben oui, il faut avoir un regard historique sur ces événements-là. Donc, ça m'a amené à me questionner sur comment poser des bonnes questions de recherche, et on va y revenir dans la deuxième partie de cette balado-là. Comment on fait pour poser des questions, puis c'est quoi les différents types de questions qu'on peut poser à l'histoire. Donc, ça, c'est le premier truc. Le second, c'est que on entend souvent « l'histoire, c'est pas pour moi parce que je retiens rien ». Et ça, il y a rien de plus frustrant que de lire un livre, de passer des heures et des heures à essayer de comprendre quelque chose, et une fois que de terminer ton livre, t'as l'impression de ne rien retenir de concret, pas de fait, tu retiens l'idée générale, mais tu retiens pas assez d'informations pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vrai que c'est très, très, très frustrant. Et j'aimerais dire, pour peut-être rassurer certaines personnes, que ça m'arrive constamment et que c'est un problème qu'on a, à moins que notre cerveau soit vraiment basé sur la rétention d'informations. C'est normal que quand on lit un livre dense d'informations, on réussit pas à tout retenir. Et la même chose quand on écoute une balado qui est vraiment, vraiment dense aussi. Mais ça se peut bien que quand on termine la balado, on se dise « est-ce que j'ai retenu quelque chose? » Et vous faites comprendre que ma dernière section, mes balados, quand je dis « qu'est-ce qu'on retient? » C'est un peu un réflexe d'enseignant, de pédagogue qui veut justement vous donner des outils pour pouvoir retenir le propos de mes balados et aussi pour moi me rassurer que ce que je fais a une valeur en tant que connaissance et tout ça. Donc ça, c'est un élément très important. Et moi, ce que je réalise de plus en plus, c'est que le problème, c'est pas tant qu'on retient pas l'information, parce que c'est pas vrai. Je veux dire, on retient des choses. C'est que on voit pas souvent les connaissances historiques dans d'autres contextes différents. Et on sait que l'apprentissage chez, par exemple, les enfants, donc je suis pas un spécialiste de l'apprentissage chez les bébés, chez les enfants et tout ça, là, mais pour avoir écouté un documentaire et lu certains articles sur le sujet, on sait que, oui, chez l'enfant, la répétition est quelque chose d'important, donc de répéter les mêmes mots ou de répéter la même histoire, ça a une valeur vraiment, vraiment importante aussi, mais qu'un enfant apprend aussi quand on réussit à mettre un mot dans différents contextes. Donc, par exemple, si on prend le mot « eau », donc le mot « eau », s'il est utilisé, par exemple, pour parler d'une rivière, pour parler du lavabo, pour parler du bain, mais plus que tu mets de contexte à ce mot-là, il risque, l'enfant, de se rappeler de ce mot-là et d'être capable de l'utiliser davantage. Et ça, ça venait d'un documentaire sur sur l'intelligence artificielle et tout ça, puis ça disait que, justement, on avait réussi à faire un schéma de l'apprentissage des mots des enfants. Donc ça, c'est un élément super important. Donc, en histoire, on n'a pas toujours la chance d'apprendre la même discipline, la même histoire, mais d'un contexte différent. On va apprendre vraiment, on va parler de la révolution industrielle, on va regarder c'est quoi qui se passe, tout ça, les causes, les conséquences et tout. Mais c'est bien rare qu'on va avoir l'occasion de réappliquer ces connaissances-là à autre chose. Ça, c'est très, très, très malheureux parce que c'est clair que si on ne réapplique pas ses connaissances ou si on ne le verbalise pas d'une façon différente, ben il n'y a pas vraiment de chance qu'on retienne les informations. Donc, moi, je vais remettre l'importance de varier ses sources et varier ses stratégies d'apprentissage en histoire. D'essayer d'avoir peut-être différents angles d'entrée, peut-être un angle d'entrée plus moderne, un angle d'entrée plus historique, de parler d'un personnage en particulier sur une période historique aussi, ça peut vraiment aider. Parce que il faut être capable de voir ces connaissances-là dans des contextes qui sont différents. Et ça, je pense qu'en histoire, on est parfois, c'est plus difficile à faire. Donc, encore une fois, écouter des balados, écouter des films, regarder des films, pardon, lire des livres, se s'intéresser à un sujet en particulier, de prendre le même événement historique puis de le revoir, c'est quelque chose qui va aider justement à retenir l'information. Et moi, quand je retiens rien, c'est souvent que c'est la première fois que j'aborde ce sujet-là et que j'ai pas eu la chance de le contextualiser dans d'autres choses, dans d'autres circonstances. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que l'histoire a un défi supplémentaire parce que étant donné que c'est dans le passé, mais parfois les événements sont terminés, mais les événements sont nécessairement terminés, c'est l'histoire quand même, faut pas. Mais les événements du passé, parfois, c'est difficile de trouver des liens, puis on veut pas non plus faire des parallèles de boîte entre des événements qui sont passés v'là 100, 200 ans et des événements d'actualité. Des fois, c'est un peu louche de comparer des événements historiques à ce qu'on vit actuellement parce que c'est pas le même contexte, c'est pas la même chose. Mais par contre, il y a des façons de venir contextualiser, de varier ces approches-là. Donc ça, c'est le deuxième truc que je dirais. C'est pas vrai qu'on retient rien, c'est juste qu'on n'a pas l'occasion d'appliquer ces concepts-là, ces connaissances-là, dans d'autres contextes où on n'a pas l'occasion de l'expliquer à quelqu'un d'une façon qui est positive. T'sais. Et la troisième chose qu'on entend souvent, c'est que l'histoire, c'est pas vraiment pour moi parce que c'est pas très utile. Et il y a du vrai là-dedans quand même. Ça me sert à quoi d'étudier quelque chose qui reviendra pas? T'sais, on va pas encore au supermarché avec une épée, là. Je veux dire, c'est. On n'a pas. Le monde a évolué, les événements sont terminés. Mais quand même, on peut voir l'histoire aussi sur un point de vue plus ludique, plus bien-être aussi là-dedans. Donc, c'est pas nécessairement, on n'est pas obligé de faire des liens avec tout ce qu'on voit nécessairement tout le temps. Mais l'histoire peut aussi être un outil d'évasion. Donc, d'entendre parler justement d'une histoire qui est pas la nôtre peut nous aider à peut-être sortir de notre réalité puis de vivre un bon moment pendant 20, 30, 40 minutes. Puis drôlement, l'histoire peut aussi être un outil de gestion du stress. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, quand on se fait lancer de l'actualité à la figure, que ce soit sur les médias sociaux, à la télévision, à la radio, peu importe le moyen que vous utilisez pour parler, pour écouter des événements de l'actualité, mais de savoir qu'il y a eu des histoires avant nous, puis qu'il va y en avoir des histoires après nous, puis qu'il y a des choses qui se sont passées qui sont similaires à ce qu'on vit actuellement, ça peut être assez rassurant dans un sens. De voir que les gens ont déjà vécu certaines choses, puis que la Terre a continué à tourner, ça peut vraiment aider. Ceci étant dit, on parle pas de devenir de faire juste du relativisme, il nous dit qu'il n'y a rien qui est grave, puis que de toute façon, la vie va continuer à rouler, à tourner, mais quand même, ça peut être rassurant de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu avant, puis qui ont fait avancer des choses, puis même qui ont eu des difficultés qui peuvent être communes à ce qu'on vit actuellement dans notre vie. Donc, ça, ces trois réflexions-là m'amènent à considérer l'histoire comme peut-être un problème à résoudre, ou du moins une question qu'on peut ensuite mettre dans d'autres contextes historiques puis de comprendre. Donc, l'industrialisation, par exemple, si on revient à l'exemple du début, ben, l'industrialisation, oui, les causes de l'industrialisation de l'Angleterre, ça, c'est bien, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe. Mais après ça, pourquoi pas aller faire une visite au centre-ville de Montréal, d'aller dans des musées, que ce soit, bon, le musée je pense, du chemin de fer ou le musée McCord ou peu importe, d'aller à un musée, de voir une exposition, puis après ça, de prendre ces connaissances-là puis de les réactualiser avec un contexte différent. Ah, ben oui, là, maintenant, en sortant de ton exposition, en sortant de ton film, OK, là, tu vas être capable peut-être de l'expliquer davantage à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est la réflexion que je voulais vous laisser aujourd'hui. Puis, je vais aussi vous poser une question, mais avant toute chose, on va prendre une petite pause et on se revient tout de suite après. Donc, je voulais déjà vous laisser aujourd'hui avec une petite explication de la façon dont on peut poser des questions à l'histoire. Et j'avais dit que j'allais vous revenir après la pause avec une interrogation, mais en fait, c'est pas ça que je vais vous laisser. Je vais vous demander c'est quoi une bonne question en histoire, ou c'est quoi une bonne question en général. Et poser des bonnes questions, c'est vraiment un défi surprenamment difficile de taille, considérable. C'est pas si évident que ça. Et ça nous demande d'y réfléchir à ces trucs-là, de réfléchir à la façon dont on demande l'information. Et ça peut nous aider, par exemple, dans nos recherches Google ou nos conversations avec les traits d'actualité intelligence artificielle, ou même dans les livres et dans les balados. Donc, je pense que ça vaut la peine, premièrement, d'expliquer qu'il y a généralement trois types de façons de s'interroger par rapport aux réalités historiques. On peut poser ce qu'on appelle, premièrement, la première branche de l'arbre, une question factuelle, basée sur des faits, qui commence généralement par quelles sont les causes de l'industrialisation, qu'est-ce que l'industrialisation, donc des causes qui demandent une réponse basée sur des sources premières, des sources secondaires, donc soit des sources d'époque ou des sources qui ont été modifiées par ou qui ont été analysées par des historiens. Donc, qui vont nous demander de s'appuyer sur des faits, ce qu'on fait tout le temps en histoire, qui vont nous demander d'utiliser des opérations comme la cause, la conséquence, le changement, la continuité. Ces questions factuelles-là, ce qui est le fun, c'est que généralement, nos moteurs de recherche sont assez bons pour répondre à ces questions-là. Demander à Google une question qui commence par « quelle est », généralement, ça va très bien. Les questions factuelles sont importantes parce que c'est un peu la fondation de notre problème en histoire, puisqu'on va avoir à la base un énoncé de recherche et ensuite on va être capable de poser des questions pour appuyer cet énoncé-là. Donc ça, c'est un type de question qu'on peut poser. Donc par exemple, dans les prochains balados, il est fort probable que je vous arrive avec une question factuelle pour vous parler, par exemple, d'un événement historique. Donc je pourrais y aller en disant quel est le contexte qui explique le début de la Première Guerre mondiale. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler des guerres mondiales, mais si ça arrive, si j'ai réussi à parler de ce sujet-là, je vais sûrement y aller par l'optique de la problématisation comme ça. Dans la deuxième partie de l'arbre, on a les questions qui sont conceptuelles. Les questions conceptuelles, c'est les questions les plus complexes, hein? Donc, c'est des questions qui commencent souvent par comment. Comment telle idée a amené telle autre chose? Comment l'industrialisation est-elle un point tournant dans l'histoire moderne? C'est quoi qu'on ressort de ça? Comment la Première Guerre mondiale est la fin de l'histoire? Okay? Donc, il y a des gens qui vont argumenter ça. Donc, ça, c'est des questions qui sont conceptuelles, qui vont demander un niveau de compréhension double, même triple. Il va falloir comprendre deux concepts différents minimalement, puis il va falloir être capable de les mettre en relation ensemble. Ça demande beaucoup de recherche, mais beaucoup d'exercice, beaucoup de travail aussi. Et ça, si vous demandez ça à un moteur de recherche, généralement, vos réponses qu'on reçoit, il faut faire un bon tri parce que c'est difficile d'avoir une réponse qui est claire par rapport à ça. Et justement, l'avantage peut-être des intelligences artificielles, c'est qu'elle est peut-être capable de faire des meilleures réponses à ces questions-là, étant donné que c'est une discussion qu'on fait avec elle. Le troisième et le dernier niveau de questions qu'on peut poser à l'histoire, c'est les questions à débat ou les questions ouvertes. Et ça, évidemment, c'est les questions qui sont les plus polémiques et c'est ce qui est difficile à répondre avec un livre, avec un moteur de recherche et tout ça. Donc, est-ce que l'industrialisation est une progression? Est-ce que c'est vu comme un progrès positif dans l'histoire, par exemple? Donc, les questions à débat, les questions ouvertes, ils peuvent être très pertinentes, mais il faut y aller avec beaucoup de précautions, parce que des questions en débat ou des questions ouvertes, sans appuyer ça par des faits, ça peut amener à des prises de position, comme on voit sur Facebook ou les réseaux sociaux, des théories un peu farfelues sur des événements historiques. Donc, ces questions-là, ils nous amènent à poser notre jugement, à exercer notre regard critique, mais elles doivent être faites avec beaucoup de questions factuelles et conceptuelles qui sont préalables à ces questions en débat et à la question ouverte. Et j'écoutais l'autre jour un historien parler, puis il disait que, tu sais, l'histoire, c'est pas, on fait pas un drame, hein, historique, on explique qu'est-ce qui s'est passé. Puis je trouve ça assez intéressant de penser que, ouais, ben, on n'est pas juste là pour se questionner si les choses sont bonnes ou mauvaises, mais aussi comme d'essayer de comprendre c'est quoi qui est arrivé avant de se positionner sur ces choses-là. Donc, ça, c'est comme les trois niveaux, de questions qu'on peut poser à l'histoire. Et justement, quand je vais essayer de me questionner sur le prochain sujet qu'on va voir ensemble, je vais souvent trouver ces niveaux-là de questions pour essayer d'argumenter une explication qui est intéressante, une explication qui est pertinente pour vous. Puis c'est ce que je fais en classe, mais ce que je fais dans les balados, et c'est ce que je fais en général dans cette perspective-là. Donc ça vient, de ce que j'enseigne, des documents que j'utilise et tout, mais ça vient aussi du préambule de mon enseignement qui est celui d'en informatique. L'idée d'être capable de venir prendre le problème dans son ensemble, de venir le décortiquer en questions, pour aller rechercher l'information après. Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle façon de voir l'histoire, de la rendre utile, de la rendre plus logique, plus mathématique aussi. Même si on sait pertinemment que l'histoire, c'est aussi beaucoup de chaos et beaucoup de hasard. Donc, je trouvais ça important de parler de ces choses-là, puis d'avoir certains épisodes comme ça qui vous donnent un peu plus de vocabulaire sur comment étudier la discipline historique. Donc, on revient dans quelques instants avec la conclusion, déjà. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était davantage de nous donner des outils pour pouvoir se comprendre dans cette balado-là, mais aussi vous donner d'autres arguments pourquoi la discipline historique peut être pertinente pour différents types d'intérêts et de personnalités. On est passé dans l'épisode 1 d'une histoire narration, une histoire racontée qui est, à mon avis, tellement, tellement pertinente, à une histoire problème, qui aussi peut emmener une dynamique assez intéressante. Reprenons l'exemple de la Première Guerre mondiale. Il est fort possible de faire la narration, par exemple, d'un soldat durant la Première Guerre mondiale pour essayer de comprendre le contexte dans lequel il vit, ou d'une femme qui travaille dans une usine à munitions, par exemple. Mais il est aussi possible de se poser une question complète sur, mettons, le contexte de la Première Guerre mondiale et d'ensuite essayer d'y répondre. Et je pense que les deux peuvent être très complémentaires. Donc, on peut clairement être capable de se poser une question et d'ensuite être capable de faire la narration de cet événement historique-là pour notre contexte, par exemple. Donc, en parlant de contexte, moi, ce que je veux vous laisser, c'est vraiment ce qui était discuté dans la première partie de la balado. Faut pas avoir peur de ne pas retenir les informations. Oui, ça peut être un peu troublant, mais moi, je trouve que c'est un blocage qu'on a. Parfois, moi, j'arrête d'écouter des choses parce que j'ai peur de pas retenir les choses imaginées. Donc, des fois, là, je suis en mode, OK, là, je vais tout noter pour essayer de retenir tout. Et à cause que je fais ça, ben, je perds le plaisir d'étudier un événement ou d'étudier un sujet historique, il faut pas faire ça. Mais en ce que je vous suggère fortement de prendre une autre stratégie, de le voir comme un premier regard à un sujet que vous voyez dans un contexte en particulier, et à la place de paniquer qu'on n'a pas retenu l'information, mais pourquoi pas utiliser cette connaissance-là dans un autre contexte, si on est capable de le faire dans une autre matière, comme par exemple le changement, on est capable de le voir dans différentes, en chimie, en physique, mais aussi en histoire, mais un peu plus basé sur la discipline historique. Si on voit la révolution industrielle dans une balado diffusion d'un enseignant de Montréal, du quartier Saint-Michel, par exemple, un exemple ben abstrait, là. Mais pourquoi pas après ça écouter un film comme Le Germinal ou d'aller voir des illustrations ou même de se rendre à une exposition ou à un musée ou d'écouter une vidéo YouTube et tout. Donc, d'essayer de revoir la connaissance dans un autre contexte à la place de juste essayer de tout retenir ce qu'on a devant nous. Donc, faut pas avoir peur de faire ça. Donc, si je peux vous laisser avec cette idée-là, je trouve ça intéressant. Et ça vous explique aussi pourquoi je fais une conclusion, qu'est-ce qu'on retient, mais ça vient de là, hein. Si je suis capable de vous laisser avec quelque chose de concret, d'essayer de vous donner des outils pour vous retenir des informations, je trouverais ça vraiment bien. C'est ça qui fait d'un bon balado, comme par exemple aujourd'hui l'histoire, j'en parle souvent, mais il termine avec les leçons de l'histoire, donc avec les leçons avec aujourd'hui, moi je trouve ça tellement intéressant de faire ça, même s'il faut pas toujours y aller avec des parenthèses, des parallèles qui sont un peu tiré des cheveux, là. Il faut aussi être réaliste dans nos leçons avec aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser en cette magnifique semaine de relâche avec une belle journée et je vous encourage encore une fois à laisser des commentaires ou à suggérer des sujets parce qu'on s'en va ailleurs dès le prochain épisode. Donc voilà, au revoir.